Hello, I'm Bill Gates.
And we are calling it iPhone.
Attends, je veux causer de science avec les intellos.
Bonjour à tous, je suis Jérôme Colombin.
Et bonjour à tous, je suis François Sorel. Et bienvenue dans ce nouveau numéro de chez Jérôme et François. On est en fin de retour. Je sais que... On était un peu en retard, Jérôme. On a raté le train du mois d'avril.
On a pris un peu... Effectivement, on était un peu absent là. Hein.
Voilà, c'est ça. Mais vous savez, on a eu le tourbillon de l'actualité.
Exactement.
Voilà. Mais l'essentiel, c'est qu'on se retrouve. Et on est très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro.
Et voilà, donc bienvenue chez nous. Bienvenue chez Jérôme et François.
C'est ça.
Le podcast qui vous parle de tech, mais au coin du feu.
Au coin du feu.
Même si c'est le printemps.
Très chaud, hein. Voilà, et puis rappelons quand même... à tous les tabloïds que ce podcast qui s'appelle Chez Jérôme et François ne veut pas dire que nous vivons ensemble.
Exactement.
Voilà, arrêtons d'avoir des paparazzi.
Tordons
qui
le
nous
coup
suivent
aux
Jérôme tous les jours.
Tordons le coup aux rumeurs, oui, mais ça suffit.
C'est ça.
Bon, alors on parle cette semaine de...
De plein de choses.
Plein de trucs évidemment, mais le sujet qui a dominé l'actu ces dernières semaines, c'est quand même cette histoire incroyable entre Elon Musk et Twitter.
Mais oui, bien sûr,
je t'aime,
même
moi
cette
non
semaine,
plus.
Ce mois. Hein,
oui, ce mois, ces dernières semaines. Hein.
Voilà, c'est ça, c'est vraiment énorme. On va parler de ça, on va parler d'un anniversaire aussi, les 15 ans de mon compte Twitter. Et les 15 ans...
On s'en fout.
C'est ça. Mais attends, tu vas voir la transition. Et les 15 ans de Google Street View aussi.
Ah oui, les 15 ans de Google Street View.
C'est quand même un truc hyper important, moi, je trouve.
Perso, c'est vrai, hein. C'est vrai. Moi, je vais vous raconter mes vacances.
Ah, ça, j'adore quand tu racontes tes vacances.
À chaque fois. Hein. Je vais vous raconter mes vacances en Corée du Sud.
Oui.
C'est quand même pas n'importe quel pays.
Rappelons que
tu
as... fait à cette occasion le guide du routard du barbecue coréen.
Tout à fait, je pourrais tout vous dire là-dessus.
Et puis aussi, tu nous raconteras une anecdote
qui
malheureusement nous arrive à toutes et à tous. Lorsqu'on perd un iPhone, on perd un iPhone,
à
partir du moment où on se retrouve en sanglots en se disant qu'on a perdu son iPhone, qu'est-ce qu'on doit faire? Et surtout, quelle est l'expérience utilisateur à partir du moment où on perd un iPhone? Ça t'est arrivé il y a quelques jours, tu vas nous raconter.
Alors, on commence par Elon Musk et Twitter.
Mais bien sûr.
On ne va pas refaire tout le film.
Non.
On en a parlé plusieurs fois sur 01 TV. Tu en as parlé 77 fois dans Tech & Co. Évidemment, j'en ai parlé également dans mon podcast Monde Numérique.
Mais oui.
Mais c'est quand même hallucinant, cette histoire-là, qui n'en finit pas.
C'est hallucinant. Et puis surtout, c'est les rebondissements. C'est-à-dire que là, je pense qu'un scénariste peut déjà vendre une série à Netflix ou Amazon ou à Disney sans aucun souci. Parce que franchement... On a des trucs à raconter tout le temps sur cette histoire. On ne va pas refaire le calendrier
film,
de tout ça, mais c'est vrai que...
Parce qu'il y a plusieurs épisodes. Hein,
au départ, voilà, Elon Musk qui prend quasiment 10% de Twitter. Quelques semaines après, il y va franchement. Hein, il fait quasi une OPA en disant, moi je mets 44 milliards sur la table pour acheter Twitter. Au début, c'était non. Après, c'était oui, parce que 44 milliards avec un projet qui tenait la route visiblement, séduit le conseil d'administration de Twitter.
Difficile de refuser. Et en plus, c'était très habile parce que en ayant pris 10%, en fait, il avait mis en place une mécanique qui finalement interdisait à Twitter de refuser. Quoi.
Voilà,
il avait
ça.
Mis le pied dans la porte et il ne pouvait pas faire autrement. Twitter ne pouvait pas faire autrement.
Voilà, n'oublions pas que Elon Musk est quand même un garçon plus ou moins génial. et puis, dernier rebondissement en date, Jérôme. Elon Musk qui dit « Attendez les gars, on
finalement,
arrête, c'est où le bouton stop là ?»
Le bouton pause.
Le bouton pause.
Le bouton pause.
Le bouton pause, oui, parce que c'est pas encore le bouton stop.
Non.
Il est où? Il est là le bouton pause. Ok, j'appuie dessus parce que en fait, je vous soupçonne, vous, chez Twitter, de mentir un petit peu concernant le pourcentage de faux comptes qu'il y a sur le réseau social.
Exactement. Twitter dit que ça ne représente que 5% des comptes. Et Elon Musk dit c'est pas vrai, tout le monde a fait l'expérience, c'est au moins 20%.
Oui, bien sûr.
Et du coup, ça remet en question les possibilités éventuelles de monétisation, enfin plein de choses.
Mais évidemment.
La vision de la modération et tout et tout. Et alors, ça, c'est le mystère parce que est-ce que c'est une vraie raison? Ou alors, c'est un prétexte parce qu'il a rencontré des problèmes par ailleurs, parce que finalement, il s'est engagé sur un montant peut-être trop élevé, parce qu'il n'arrive pas à réellement réunir son tour de table financier. Enfin, c'est assez bizarroïde, cette histoire.
Écoute, moi, je pense que...
Quelle est ta conviction profonde?
Je pense qu'Elon Musk a raison. Parce que...
Sur les faux comptes?
Oui, je pense qu'il a raison, parce qu'on a tous, on est souvent sur Twitter, toi et moi, oui. Et on se rend compte souvent que soit on est suivi par des comptes un peu chelous, le nombre de fiancés que je peux avoir moi sur Twitter, je sais pas toi. Ah,
oui. Moi j'adore, dans des conversations hyper sérieuses, tu as une meuf qui met, naked photos ou je sais pas quoi. Là. Donc,
et là, on peut pas dire que ce soit un compte dont la véracité est prouvée à 100% non. Si tu veux. Et nous, humbles twittos, qui sommes déjà victimes de ce type de choses, ça veut dire quoi ? Ça veut
dire qui sommes nous-mêmes des fantômes d'ailleurs.
Voilà, c'est ça. À mon avis, Elon Musk a raison d'enquêter parce que, en fait, le rachat de Twitter repose sur quoi ? Pour Elon Musk, c'est la monétisation de chaque compte, de vrais comptes.
Ouais.
Et quand tu donnes 44 milliards et que tu as prévu au départ d'avoir 5% de comptes fake, tu dis ok, c'est pas grave, c'est dans mon business plan.
Oui, c'est les pertes et profits en fait.
Voilà, mais si tu te retrouves avec 10, 15, 20% de faux comptes, Twitter ne vaut plus 44 milliards.
Là, c'est le business model qui tient plus.
C'est le business model qui tient plus. Il tient, mais plus à 44 milliards. Peut-être à 35 ou 30, je ne sais pas. Mais je pense que Elon Musk, qui paraît être un personnage un peu fantasque comme ça, est quelqu'un, on le sait, de très très intelligent. Et surtout, c'est un excellent homme d'affaires. Et pour lui, il veut acheter Twitter au bon prix. Et le bon prix dépend du nombre de faux comptes qu'il y a sur le réseau social.
Exactement. Et le fait d'avoir annoncé malgré tout 44 milliards, ça fait un choc à la fois psychologique, financier. Ça faisait peut-être même partie de sa stratégie,
oui.
Qui finalement est vraiment une stratégie de billard à 3 bandes, 4 bandes, 5 bandes. Quoi.
Après, moi ce que je trouve incroyable avec Elon Musk, c'est la manière dont il en parle. C'est-à-dire que sur Twitter, il dit qu'il ne va plus racheter Twitter. Sur Twitter, il dit qu'il imagine et il croit qu'il y a plus de 5% de comptes faux sur Twitter. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de transparence dans cette communication qu'on n'a pas l'habitude d'avoir. Quand il y a ces transactions énormes entre tu vois des hommes d'affaires et des grands sites comme ça américains, et moi je trouve ça c'est super. On a l'impression de tu vois tu prends les popcorn et tu lis les tweets d'Elon Musk qui se frite avec tout le monde
Parag Agrawal le patron de Twitter
qui se frite ouvertement. Il y a eu des départs aussi chez Twitter de personnalités qui étaient très élevées dans l'organigramme qui s'en vont, qui ont été virées. Donc ça bouge. Malgré tout, il faut surveiller ça de près parce que Twitter est un réseau social qui est fortement décrié, mais qui est utile, je pense, à la société.
Ah ça, j'en suis certain. C'est devenu un vrai média, un média à part entière. Alors avec tous ses défauts, mais aussi avec sa réactivité, sa rapidité d'information.
Et puis sa spécificité.
Et puis l'importance, le poids qu'il a pris, notamment en France, on le voit dans la vie publique. Les hommes politiques s'expriment sur Twitter, etc. Parfois pour dire des bêtises, mais parfois pour faire de la communication très officielle.
En effet. Donc voilà, ça c'était le petit épisode Twitter. Ça va, il y aura sans doute des rebondissements.
Tu peux faire tes provisions de popcorn.
Ouais, mais tu sais quoi, juste une chose, je me demande comment Elon Musk a pu se faire avoir là-dessus avant d'annoncer ce
chiffre. Mais est-ce qu'il s'est fait avoir ou est-ce que
tu crois
encore
que
une fois
après c'est peut-être une négo.
Et voilà.
C'est peut-être
moi,
une négo. Mais quand tu rachètes un groupe comme un réseau social comme Twitter, tu sais très bien que tu as plus de 5% de faux comptes.
Mais il le savait
dès le
départ.
Si demain tu rachètes Facebook, tu sais que tu as 10, 15, 20% de faux comptes. Ça fait partie de la vie des réseaux sociaux.
Bien sûr. Il y a un de ses financiers qui est dans son tour de table qui lui a dit écoute, ça me gêne, je suis pas d'accord, etc.
Alors voilà. Donc là, Twitter est en plein audit. Ça va être intéressant de suivre ça de près dans les semaines qui viennent.
De Twitter, nous allons passer à un autre géant américain du web, François, et un vieux de la vieille, c'est toi.
C'est gentil. Merci, mon ami.
Alors, tu voulais nous parler de ton anniversaire, c'est ça ?
Mais oui, mon anniversaire. Attends, non, mais attends, on parlait des 15 ans. Là, j'ai reçu un tweet, il y a 2 jours, en disant « Bon anniversaire, ça fait 15 ans que vous êtes sur Twitter. » 15 ans qu'on est sur Twitter. Bon, petite parenthèse, tu te rends compte ? 2007, c'était 2007 et je pense que je me demande si c'est pas toi qui m'avais dit à l'époque viens t'inscrire sur ce truc là c'est rigolo c'est comme tout etc. Et je m'étais inscrit en t'écoutant ou peut-être l'inverse, je pense que
mon compte actuel doit être un peu plus vieux parce qu'en fait j'avais un autre compte qui est toujours en sommeil, qui est caché, je vous dirai pas où il est, mais qui était mon véritable compte initial.
Encore un faux compte.
Ah bah oui.
Et ben
non,
voilà.
Ah non, c'est pas un faux.
Non.
Mais non, oui. C'est, mais non, monsieur.
Tu vois, Elon Musk
mais
a raison.
Non, c'est,
en
pas
fait.
C'est pas un faux compte. C'est un vrai compte.
Mais qui dort.
Mais qui dort. Voilà. C'est mon compte test. Je m'en sers pour tester des trucs.
Donc, on parlait des 15 ans de mon anniversaire de Twitter, mais c'est aussi les 15 ans, un anniversaire important, beaucoup plus important que mon compte Twitter, à mon avis, c'est Google Street View.
15 ans de Google Street View.
15 ans de Google Street View. Voilà. Alors. Google Street View, franchement, tu sais, je pense que si on devait me donner, m'obliger, tu vois, sur, je sais pas moi, en pleine torture, me dire, François Sorel, dites-moi les 10 innovations qui ont le plus marqué ces 15 dernières années, autrement, on vous arrache un petit ongle. Eh bien, je dirais, je pense, Google Street View dans les 10 premiers.
Mais tu as raison, c'est sans doute l'un des outils qui a suscité le moins de polémique. Alors, un petit peu au début sur la vie privée, on reconnaissait les visages, etc.
Ça a été vite réglé.
C'est flouté de manière automatique. Mais c'est vrai que c'est un truc qui est complètement dans la vie des gens, que tout le monde utilise.
Bien sûr. Ça dépasse même, si tu veux, le Google, en quelque sorte.
Ouais, ouais.
C'est ça qui est incroyable. Et on peut critiquer Google sur plein de choses en disant oui, ils malaxent nos données, ils nous envoient de la pub.
Ils malaxent nos données.
Non, mais c'est vrai. Ouais. Enfin, voilà, il y a tout ça.
Oui, bah,
ils nous géolocalisent grâce à Google Maps, etc.
Ouais.
Un, vous pouvez vous désactiver tout ça, hein, si vous le voulez. Deux, c'est leur modèle économique.
On le sait.
Voilà, hein, on est le produit, donc ouais. Bah voilà, c'est gratuit. Mais trois, mais quel outil fantastique.
Quel
travail titanesque.
Ouais.
En 15 ans, d'avoir numérisé les routes, les autoroutes, les départementales, les petits chemins. C'est ça qui est incroyable. C'est qu'aujourd'hui, Street View, c'est tous les itinéraires quasiment.
16 millions de kilomètres, plus de 100 pays couverts.
100 pays couverts.
Tu as reçu dans Tech & Co Gilles Davidovitch.
Oui. Tout à fait.
Géographe de Google, que j'ai interviewé également pour Monde Numérique.
Voilà, dans Monde Numérique qui est disponible ce week-end.
Voilà, depuis ce samedi. Et parce qu'effectivement, je suis allé à la présentation d'ailleurs, tu n'y étais pas toi, mais c'est pas grave, j'étais représenté.
Oui,
la présentation chez Google à Paris, au siège de Google à Paris. C'était amusant parce qu'ils avaient mis dans la cour de Google, dans un bel hôtel particulier Google à Paris, ils avaient mis une Street View Car.
Oui.
Une Street View Car, c'est comme ça qu'elle s'appelle.
Pour montrer justement tout l'attirail technique qu'il y a au-dessus du véhicule.
Exactement. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que l'attirail technique s'est considérablement amélioré au fil des années.
Tu te rends compte, en 15 ans,
et
le progrès technologique.
Il y avait je ne sais plus combien de caméras au début. Aujourd'hui, c'est réduit à 7, il me semble, maximum. Et c'est devenu tout petit. Et sur les futures versions qui sont en train d'arriver, c'est quasiment un système qu'on pourra mettre sur une voiture et puis l'enlever. Enfin,
incroyable.
Ce sera beaucoup plus léger.
Incroyable.
Quoi.
Avec, j'imagine, encore une meilleure qualité d'image. Parce que c'est ça aussi. C'est qu'en 15 ans, les résolutions des appareils photo ont évolué. Tout ça coûte moins cher. Et puis, ça, c'est allégé. Je crois que maintenant ça pèse 7 kilos en fait un équipement pour faire du Google Street View.
Oui, puisqu'on peut même le mettre dans un sac à dos. On pouvait déjà, mais ça pesait 20 kilos au début.
Mais ouais.
Donc les mecs ils se tapaient sur les chemins de randonnée là avec un sac de 20 kilos. Maintenant c'est beaucoup plus intéressant.
Et moi je me souviens dans Tech & Co il y a quelques mois de cela, j'avais interviewé un gars qui juste pour le plaisir chaussait dans son sac à dos la caméra Google et se balader dans des randonnées, dans des chemins, etc.
Ah, il faisait ça à titre perso.
Ouais, alors non, je pense qu'il devait être payé quand même, hein, parce que ou dédommagé d'une manière ou d'une autre.
Ouais.
Mais c'est lui qui s'est occupé, par exemple, de numériser Google Street View à Tahiti ou à Bora Bora. Bon, il a choisi une bonne dîme.
Oui,
voilà.
C'est bien.
C'est plus sympa que Roubaix, même si j'ai rien contre Roubaix. Hein. Il y a OVH et tout ça, c'est très cool.
Bien sûr.
Mais c'est vrai que c'est plutôt sympa. Et donc, il racontait qu'aujourd'hui, voilà, que ce soit à vélo ou même dans un sac à dos, il a son attirail, il avance comme ça. Et on a même sur Street View des parcours de randonnée, des choses comme ça. C'est fou, quoi.
Oui, mais ce qui est étonnant, et ce qui est génial, c'est qu'aujourd'hui, les données visuelles qui sont captées... Alors déjà, il y a de la reconnaissance véritablement de contenu. Par exemple, il passe devant un magasin, eh bien, il photographie quand c'est affiché les horaires d'ouverture du magasin. Et ça, c'est rentré... dans les, ça devient de la data à proprement parler. C'est mixé avec les données de Google qui peuvent être alimentées par les commerçants eux-mêmes. Et tout ça devient une espèce de gloubi-boulga de data qui vient alimenter encore plus le moteur de recherche et on l'utilise tous les jours.
Et voilà. Et on pourra en parler pendant des heures, mais la prochaine étape de Google Street View, c'est de rafraîchir toutes ces données parce que, mine de rien, il y a encore des données qui datent du tout début de Google Street View. Tiens, tu sais que moi, je suis originaire de Corse. Je m'amusais justement à regarder des petits chemins et tout. Et j'ai retrouvé des images qui datent de 2008.
Oui, parce que maintenant, mais comme ils les conservent, il y a des mises à jour, tu peux remonter dans le temps
en
plus.
Oui, mais il y en a encore qui datent vraiment de 2008, qui n'ont pas été mises à jour.
Ah, qui n'ont pas été mises à jour.
Il y a tout un travail de mise à jour qui a été fait.
Après, c'est la Corse, une fois tous les 20 ans, ça suffit.
Oui, ça suffit. Bon, sauf quand il y a des incendies
malheureusement.
Qui posent des problèmes. Mais, et là, le travail aussi de numériser, par exemple, des lieux, des musées, des choses comme ça, c'est formidable.
Ça, c'est génial. La numérisation indoor, en fait.
Et c'est incroyable. Ouais. Et préparer ses vacances, on l'a tous fait, préparer ses vacances avec Google Maps et se faire du Street View pour voir l'entrée de son hôtel, à quoi ressemble la piscine.
Quand tu fais une location, etc.
Est-ce qu'il y a un café à côté qui est cool? Le restaurant, là, c'est quoi? Est-ce qu'il y a une terrasse? Mais on ne s'en rend pas compte. C'est un peu comme le Wi-Fi, c'est un peu comme toutes ces technologies qui aujourd'hui font partie de notre quotidien. Mais c'est des trucs qui ont marqué notre vie et qui, il y a un avant et un après, quoi. Comme Spotify.
15 ans de Google Street View. Bah justement, moi je m'en suis servi de Google Street View il n'y a pas longtemps, juste pour préparer un petit voyage assez sympa en Corée du Sud.
Mais tu sais, on pourrait en parler pendant des heures et des heures. Encore une fois, l'outil Google de traduction instantanée
Google
du coréen au français, on ne se rend pas compte, mais c'est incroyable.
Bah oui.
Aujourd'hui, on peut communiquer avec le monde entier grâce à son smartphone et de manière très simple. Et j'imagine que ça a dû te sauver.
Ah en Corée, ça m'a sauvé la mise plusieurs fois. Hein.
Pas mal de choses, tu vois.
C'est pour décrypter la carte du restaurant,
oui,
ou pour se faire comprendre auprès du chauffeur de taxi, etc.
En effet.
C'était génial.
Ça, c'est autre chose, on s'éloigne du sujet. Mais... Donc, la Corée qui est un pays hautement technologique.
Tout à fait, depuis toujours.
Voilà. Mmh. Tu as eu la chance, en plus, d'aller au cœur du réacteur de chez Samsung, non ?
Exactement. Je suis allé à Suwon, au QG, en fait, historique de Samsung. Alors, c'était une ville, ça s'appelle la Digital City. Et bon, ça ressemble beaucoup, si tu veux, au campus de Google ou au campus de Microsoft, ou qu'on a eu l'occasion de visiter ensemble. Des grands bâtiments, de grandes avenues. C'est assez magique. C'est pas très audacieux au niveau architectural.
Non, ça va être un peu austère quand même.
C'est un peu austère.
Moi, je me souviens, on est allé en Corée pour visiter LG, justement. Ouais. Enfin, le siège d'LG, c'était un peu austère quand même.
Mais malgré tout,
il y a quand même pas mal d'années. Ça a peut-être changé.
Et c'est devenu quand même mythique quelque part. Samsung aujourd'hui,
c'est
complètement entré dans la vie des gens avec des tas de produits. Alors en plus, j'ai eu une chance phénoménale parce que il y a à l'intérieur de cette Digital City un musée qui s'appelle le CIM, le musée de l'innovation de Samsung, et qui normalement était fermé à cause du Covid. Mais ils m'ont fait l'honneur et le plaisir de m'accueillir pour une visite privée dans ce musée.
Top.
Voilà, donc qui est assez sympa.
Rendez-vous, Jérôme Colombin, VIP, même en Corée du Sud. C'est incroyable.
Je les remercie. C'est vrai que j'avais sollicité Samsung avant de partir. Vraiment, ils m'ont déroulé le tapis rouge.
C'est top.
Et j'ai beaucoup apprécié. Et c'est très instructif parce que ça te montre à la fois l'évolution des produits Samsung, mais pas seulement. Ils ne sont pas trop tant que ça tournés vers eux-mêmes parce qu'il y avait, tu vois, les premiers téléphones mobiles qui étaient américains, qui étaient Motorola, je crois.
Ah, d'accord. Donc c'est un musée de l'innovation.
C'est un musée de l'innovation, d'accord. Exactement. Okay. Et il y a évidemment au milieu des produits Samsung. Donc il y a le premier téléphone mobile Samsung qu'on n'a jamais vu en France, en Europe. Et puis, il y a aussi un peu l'historique des produits quand même spécifiquement Samsung qui avait commencé plutôt avec l'électroménager et puis ensuite avec la vidéo, avec des magnétoscopes. Et c'est amusant parce que Samsung, rappelle-toi, c'était pas une super marque au début.
Non. Hein.
Samsung, ça veut dire 3 étoiles en fait en Corée. Oui. Mais l'idée de départ, c'était de produire beaucoup pour faire baisser les prix, pour que les gens puissent avoir de l'électronique à pas cher, sachant qu'à côté, il y avait les Japonais qui faisaient des produits sans doute de meilleure qualité mais plus cher.
Moi, je me souviens très bien. souviens, hein, j'allais dans des grands hypermarchés, tu te retrouvais en tête de gondole avec des télés cathodiques Samsung.
Ouais.
Et à l'époque, on ne connaissait pas cette marque et elle n'avait aucune notion qualitative. En fait,
voilà.
Il y a eu tout un travail exceptionnel.
C'est à partir des années 90, il y a eu un vrai virage stratégique de la part du PDG qui a dit bon, maintenant on arrête de faire que de la quantité, on veut faire de la qualité.
Voilà.
Et donc voilà toute l'histoire qu'on connaît aujourd'hui.
Pousser l'innovation avec aujourd'hui, on le sait, toutes les avances qu'a Samsung dans pas mal de domaines, notamment les écrans pliants avec les smartphones pliants.
Voilà, exactement. Mais bon, la Corée, ça reste. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit moins la différence. Rappelle-toi, on était allé en Corée ensemble en 2008, ouais. François. Et à l'époque, il y avait la télévision sur les téléphones mobiles. Alors que ça n'existait pas en France, mais c'était pas de la télévision par la data.
Non, c'était du broadcast.
C'était du broadcast, ouais, c'était le DMB, je crois, un truc comme ça.
Ou le DVB, non.
Ou le DVB.
Enfin,
j'en parle dans mon podcast parce que j'ai fait un épisode spécial, évidemment, sur la Corée où
Et je me souviens très bien, on était rentré dans un taxi et dans tous les taxis, ils regardaient la télé, avec des petits écrans.
Ce qui n'est pas bien, d'ailleurs.
Et voilà, mais pour eux, c'est tout à fait normal. Hein. Ils regardaient, je ne sais plus quoi, enfin, des programmes. Et c'était grâce au DVB.
Voilà, exactement.
On était à l'époque quoi, c'était la 3G, non? On
devait être c'était la 3G.
Ça, la 3G,
ça permettait pas de parler de passer de la vidéo.
Ouais, ouais.
Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a beaucoup progressé en Europe et on va dire que le gap n'est plus aussi important qu'avant. Mais ce qui change, ce qui est différent, c'est la mentalité par rapport à la technologie. Ils sont complètement ouverts là-dessus, ils sont complètement demandeurs. Alors c'est vrai que l'État impulse énormément depuis très longtemps et ils sont gadgetophiles et ils sont technophiles à mort. Et là maintenant, c'est cap sur le métavers.
Bien sûr, bien sûr.
Donc il y a la mairie de Séoul.
Ils ont toujours une avance en termes de réseau, je crois. Ils sont toujours... Enfin voilà, ça a été un pays
pionnier
dans la fibre optique.
Absolument, tu as raison.
La 5G.
Et Séoul, je crois, est l'une des villes les plus connectées du monde.
Les plus rapides
en très haut débit.
En termes de connexion. Donc c'est vrai qu'ils ont, toujours cette volonté d'être les meilleurs en termes de connectivité.
Et accessoirement, c'est un pays super sympa. Les gens sont... Ah ouais, super. Oui, très agréable. C'est un détail, mais tu vois, très, très, très rassurant, très... voilà, pour l'anecdote, moi j'ai laissé tomber sur le bord du chemin un sac qui était plein de trucs qu'on avait acheté. On l'a retrouvé 3 heures après.
Ouais, incroyable. Dans la rue, en fait.
Dans la rue.
Ah ouais,
c'est hallucinant.
C'est rare quand même.
Oui, ça n'arriverait pas.
Ça peut arriver à Paris. Hein. J'ai un ami à qui on a ramené son sac chez lui. Tu te rends compte, enfin, pour te dire. Hein. Là, c'est encore pire que ton truc. Hein. Comme quoi,
il y a des gens honnêtes.
Il y a des gens honnêtes. Et heureusement qu'il y en a, ils nous inspirent, ces gens-là.
C'est vrai.
Alors ça, donc la Corée.
Ouais.
Si vous voulez en savoir plus, il y a ton podcast. Hein, où évidemment, tu vas beaucoup plus loin dans ce sujet. Encore une petite histoire personnelle, mon cher Jérôme.
Ben oui, alors c'était au retour de Corée, justement.
Mais voilà.
Le truc le plus con.
Tu rentres en avion, parce que t'es pas rentré en voiture.
Je suis pas rentré en voiture, je suis désolé. Pour mon bilan carbone. Mais j'économise quand même sur l'année. Je n'abuse plus des voyages comme avant. Et bref. Et donc, c'était au retour de Corée. Paf, 7 heures de retard dans l'avion, t'arrives, t'as la tête explosée, tu n'es plus goûté, tu perds tes moyens et hop, tu oublies ton téléphone sous ton siège.
Et ça,
et
c'est
là,
le drame.
C'est le drame.
Mais oui.
Ben oui, c'est le drame parce que franchement, je me suis dit, tu vois, nous, toi, moi, on baigne dans la tech, on a l'impression qu'on sait plein de choses, etc. Et ben, tu te retrouves dans cette situation que beaucoup de gens ont vécu. T'es vraiment désemparé et tu ne sais pas par quel bout prendre le problème. Ou plus exactement, si... Évidemment, on sait par quel bout on prend le problème.
Alors, on prend le cas précis, c'est un iPhone. Voilà, donc un iPhone.
Donc, tu vas sur iCloud.
À partir du moment où vous avez un iPhone et un iCloud, il a toute une batterie de sécurité.
C'est vrai.
Qui font que, bon, en théorie, on ne peut pas le déverrouiller. En théorie, c'est inviolable. Vos données sont stockées et protégées. Et vous avez une fonction qui s'appelle localiser, que vous connaissez peut-être si vous avez un appareil Apple, qui vous permet de localiser, en fait, votre smartphone.
Oui, exactement. Mais... c'est dans les détails que se nichent les problèmes. Et par exemple, j'ai pas compris comment j'avais pu le localiser, parce que j'ai pu le localiser. Il a été vu en grande banlieue, en très grande banlieue, le lendemain de mon retour en France.
Mais pas chez toi, en tout cas.
Mais pas chez moi, non. C'est sûr. Non. Mais comment est-ce que c'est possible, sachant qu'il était en mode avion? Et que la personne
qui l'a récupéré. Oui, parce que t'étais dans un avion.
Parce que je pense qu'il a.
Donc t'étais bien discipliné, tu t'es mis en mode avion quand t'es rentré dans
le
carlingue, et puis tu comptais le réactiver en fait.
Tout à fait.
Voilà.
Non, mais visiblement quelqu'un l'a trouvé, quelqu'un l'a pris et ne l'a pas rendu.
Tout à fait.
On va pas se mentir, le problème, il est là.
Oui.
Mais après, comment se fait-il que moi, j'ai pu le localiser au moins une fois, alors qu'il était toujours, enfin, qu'a priori, initialement, il était en mode avion, et puis que la personne n'a pas trouvé le code. C'est un code à 6 chiffres, c'est pas
non,
possible.
Non, le téléphone est,
voilà, première
est inutilisable, en fait.
Exactement. Donc, je commence à chatter avec un technicien d'Apple, sur le site d'Apple, et qui me dit non, c'est pas possible. S'il est en mode avion, il est pas localisable. Bon, voilà. Donc, premier truc que tu comprends pas. Ensuite, tu as deux options. Soit tu le déclares en mode perdu. Il va afficher un message, il va inviter la personne qu'il trouve à te contacter, soit carrément tu l'effaces. Mais si tu l'effaces par sécurité, tu as envie de l'effacer, mais tu te dis si je l'efface, j'ai plus aucune chance de le localiser. Et bien là, il y a un flou artistique et j'ai compris tard qu'en réalité, depuis iOS 15, normalement, même effacé, on peut continuer à le localiser. Mais tout ça pour dire que, et sans rentrer trop dans le détail, si tu veux, on voit bien qu'on sait des choses sur la localisation, la géolocalisation des iPhones, etc. Mais on a quand même du mal à avoir une vision claire et nette de
non,
ce qui est possible, de ce qu'il est possible de faire, de ne pas faire, etc. Quoi.
Oui, bien sûr. Et puis, voilà, ça sert à quoi finalement cette géolocalisation d'un téléphone, si on l'a perdu ou si on nous le vole?
Bah, tu vas voir la police, mais qui,
police,
franchement,
mais bon,
est carrément pas motivé. Hein.
Et puis on peut les comprendre, ils ont peut-être d'autres chats à fouetter. Enfin, est-ce qu'il faudrait pas un service spécifique?
Bien sûr.
Etc. Enfin, bon, bref.
Oui, mais après, ça c'est une parenthèse, mais si tu veux, je trouve qu'il y a quand même un truc qui colle pas, c'est que c'est des produits qui coûtent plus d'un millier d'euros.
Mmh.
Ce serait n'importe quoi d'autre, on agirait un minimum. Et là, comme souvent, les propriétaires de smartphones sont assurés, et bien du coup, on se dit, bon, allez, écoutez, ça passe avec l'eau du bain. Mais le truc, c'est qu'il y a impunité. C'est-à-dire que tu peux piquer des téléphones sans qu'il n'y ait jamais de sanctions, en fait.
Et après, moi, je me pose la question, alors peut-être que je suis naïf, mais Apple nous dit, nos téléphones sont inviolables. À partir du moment où vous avez iCloud et Face ID avec et des codes, etc., personne ne peut le déverrouiller, il est inviolable. Mais qu'est-ce qu'on font, en fait, les personnes qui volent les téléphones?
Alors,
parce que, tu vois, tu peux pas le réinitialiser, en théorie.
Alors, la suite de l'histoire, c'est que je l'ai relocalisé quelques jours plus tard en Tunisie, au Maroc.
Non, c'est pas vrai.
Si, il est au Maroc.
Ah, il est au Maroc.
Il est au Maroc.
D'accord. Donc, voilà. il a fait le grand bond de la Méditerranée.
Exactement. D'accord. Mais je me suis pas démonté.
Tu es allé au Maroc?
Non, j'ai appelé le commissariat.
D'accord.
Et écoute, super pro, super professionnel. Ils nous ont rappelé le lendemain, etc. Mais bon, pour l'instant, j'en sais pas plus. Mais c'est vrai que c'est la question,
c'est
elle est là.
Qu'est-ce qu'ils vont en faire?
Est-ce qu'il existe
aujourd'hui des failles que peu de gens connaissent et qui arrivent, en fait, qui permettent de réinitialiser totalement un iPhone qui a été volé, alors qu'il y a toutes ces protections, hein?
C'est la vraie question. Ou alors il le démonte juste pour récupérer les pièces.
Ou alors il est parti au Maroc et puis après il va dans une usine, si tu veux, ils vont le démonter.
Le Blender.
Alors, j'espère pas.
Il va être blendé.
Mais peut-être pour reprendre l'écran, pour reprendre la batterie.
Oui, c'est ça, pour récupérer les pièces, comme pour les voitures.
Je sais pas, mais j'aimerais bien avoir la réponse. Si vous l'avez, n'hésitez pas, vous pouvez nous laisser un petit message.
Voilà, si vous travaillez dans une filière de recel d'iPhone volé, surtout, dites-nous tout.
Non, mais bon, c'est un sujet très intéressant.
C'est vraiment un sujet, ouais.
C'est le jeu du chat et de la souris.
Bah, exactement. Voilà.
Bon, alors t'as plus d'iPhone alors?
Alors écoute, tu sais, j'ai toujours un peu des réserves.
Jérôme a un iPhone 5, mais il ne peut plus avoir de WhatsApp maintenant.
Oui,
puisque
c'est le problème. C'est pour ça qu'on n'arrive plus à communiquer.
Jérôme, eh bien, je crois que nous arrivons.
On a presque terminé.
Chez Jérôme et François.
Ah, il y a une dernière chose dont il faut qu'on parle, François.
Oui.
Ah là 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 là. Alors attention, ne partez pas.
Non, surtout ne partez pas. Vous alliez éteindre votre truc là. Non, ne l'éteignez pas. Vous montez un petit peu le son.
On a un truc à vous annoncer.
Alors, on vous annoncera plus de choses le mois prochain. Mais sachez que on est à l'aube d'une petite révolution dans notre média 01TV.
Ouais.
Nous allons bientôt changer de nom.
Tantam.
Jérôme.
Et oui, c'est pas rien.
C'est pas rien.
On va changer de nom car il va y avoir. Eh bien oui, il y a de la réorganisation, il y a de la voilà sans donc tout déflorer, mais il y a un peu de déstructuration, restructuration.
Tout à fait.
On va changer de nom. On le dit le nom ou pas?
Oh bah bien sûr, on peut le dire.
On peut le dire.
Ouais. Bah tu le connais.
Ah bah oui, je le connais. Mais vous le connaissez en fait, vous le connaissez aussi en fait, puisque désormais la chaîne 01TV va s'appeler Tech & Co.
Voilà, ça sera la chaîne Tech & Co.
Tout simplement.
Voilà, donc il y a évidemment, on va tout vous expliquer. On a évidemment des projets très ambitieux concernant cette nouvelle verticale qu'on lance dans le groupe Altice Media.
Oui, puisque ce sera plus qu'une chaîne de vidéo.
La chaîne de télé, de 01 TV, vous connaissez aujourd'hui, qui va être rebaptisée Tech & Co, la chaîne. Mm-hmm. Il y a donc l'émission que j'ai le plaisir de présenter tous les soirs sur BFM Business, mais il y aura aussi une verticale web. Vous alimentera en Accutech tous les jours avec des tests produits et plein de choses. On a plein de projets avec Jérôme et avec des journalistes de la rédaction, dont certains que vous connaissez et puis d'autres que vous ne connaissez peut-être pas, mais que vous découvrirez bientôt. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus. Vous en saurez beaucoup plus le mois prochain. Voilà.
Mais c'est déjà beaucoup et donc c'est une vraie petite
une petite révolution
ça, qui se prépare. Voilà. Et on voulait vous en parler en exclu dans chez Jérôme et François.
Ben oui, puisqu'on vous dit tout.
Et vous avez bien fait de rester jusqu'à la fin de ce podcast. François, on arrive à la fin.
Oui.
C'est exactement le timing qu'on s'était fixé, donc c'est formidable.
Et on se retrouve bien évidemment très vite, toi avec ton podcast Monde Numérique, bien évidemment.
Et toi avec Tech & Co sur BFM Business et bientôt sur Tech & Co la chaîne.
Évidemment. Merci de nous suivre en tout cas et à très vite.
On se retrouve à Vivatech, tiens d'ailleurs.
Oui, on y sera.
Bientôt là, 15 juin, rendez-vous à Vivatech.
Salut à tous.
Salut à tous.